Bonjour à tous et bonne année. Donc, je ne sais pas pour vous, mais des fois, il y a, parlons d'années, des années, des temps, des semaines, des mois qui passent. Il n'y a rien vraiment qui change dans la vie ou qui se passe, n'est-ce pas? Et d'autres fois, il y a tout qui arrive pendant un seul jour ou une semaine. Je ne sais pas si vous avez aussi fait cette expérience. Mais en tout cas, c'était un peu la même chose pour Jésus. Parce que nous, on le connaît pour sa crucifixion et sa résurrection, mais c'était un jour quand même assez chargé. Et si on le repartit en trois parties, c'est un long jour qui commence la veille avec la Pâque, donc Jésus, ses disciples, ses amis, qui fêtent ensemble, qui ont la scène où Jésus lave les pieds, où il enseigne. On a une autre partie où il se fait arrêter et il se fait emmener des sacrificateurs, des pharisiens vers Pilate, vers Hérode et ainsi de suite. Et finalement, il se fait crucifier. Et dans tout ce bazar-là, dans tout ce bruit à Jérusalem, nous on va ce matin regarder un peu dans Matthieu 26. Deux personnages un peu plus silencieux, mais très importants quand même pour le déroulement de ces événements et de Jésus et pour l'humanité entière. Et nous allons regarder ce matin deux traîtres pendant cette nuit-là qui ont trahi Jésus. Donc nous lisons dans Matthieu 26. D'abord, commençons par les versets 47 à 50. Comme il parlait encore, donc ici Jésus, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc, dans Judas, nous avons vraiment le traître des traîtres dans l'histoire. Hein. En fait, d'abord, c'est quoi un traître? On le sait tous, mais si on peut le définir un peu. Vous voyez, un ennemi, il est contre nous, il nous veut du mal. Mais au moins, il est clair. Au moins, on le sait, on peut se préparer, on sait à qui on a face. Mais un traître, c'est quelqu'un qui appartenait des nôtres, qui était un ami, et qui soudain est un ennemi. C'est quelqu'un qui prétend être de votre côté, et puis, soudainement, il est du côté opposé. Et donc il est même pire qu'un ennemi, parce qu'un ennemi au moins il est honnête, au moins vous le savez. Et il vous fait du mal, d'accord? Mais le traître, c'est quelqu'un qui fait du mal et il a encore la déception. Donc il a ça en plus. C'est quand même bizarre qu'on puisse trahir quelqu'un comme Jésus quand même. C'est Dieu, c'est l'homme parfait, c'est un bon ami, de bons enseignements, et quand même Judas arrive à faire cela. Quelques heures avant cette scène qu'on vient de lire, il était là avec la scène, pendant la scène avec Jésus, avec tous les autres disciples, et Jésus a même lavé ses pieds. Mais ça n'a pas empêché quand même de le trahir. La Bible nous dit que Judas avait ouvert son cœur et que le diable il est rentré. Et c'est pour ça qu'il a trahi Jésus, n'est-ce pas? Il s'est mis ensemble avec les sacrificateurs et les pharisiens qui cherchaient déjà à faire mourir Jésus pour faire. Et donc il fait affaire avec eux. Ils se mettent ensemble. Lui, il le paye de 30 monnaies d'argent pour donc trahir Jésus. Et c'est ainsi d'une manière assez triste et très silencieuse dans cette nuit assez bruyante que Judas il passe donc d'un ami à un ennemi de Dieu. Mais ça se finit pas bien pour lui. On est vite fait dans le chapitre 27, à partir du verset 3, donc juste tourner la page. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc là, nous avons la fin triste de Judas. Celui qui était avec Jésus, qui a entendu, tu sais, qui était là pendant les enseignements, les miracles, et ainsi de suite, et il va finir par se pendre, parce qu'il a des remords de ce qu'il a fait. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Probablement, il voulait provoquer une révolte contre une révolte du peuple contre les Romains en livrant Jésus au sacrificateur, puisqu'on savait que c'était une période assez délicate et la personne de Jésus était très... Voilà, c'était pas facile à l'époque. Mais il échoue. Et donc, quand il voit que son plan il échoue, c'est là qu'il a des remords. Mais c'est trop tard parce que les plans sont déjà en train. Il essaye d'arrêter ce procès que les sacrificateurs sont en train de faire. Mais eux, ils continuent. Et il dit simplement, là maintenant, Judas, c'est ton affaire. Et lui qui avait mis sa confiance dans ces hommes-là, maintenant, c'est lui qui est trahi par eux, par ses propres plans. Et ça le laisse où? Dans le désespoir, sans espoir, sans issue. Et lui, il n'a qu'un... Et lui ne voit que comme seule sortie de ce pendre. Et je crois que Judas, c'est pas quelqu'un que nous aimons, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui nous inspire et comme qui nous voulons être. Mais pendant cette nuit, on a une deuxième trahison d'un personnage qui nous est quand même assez sympathique plutôt, qu'on aimerait bien être ou qu'on aimerait bien. Voilà, qu'on aime bien. Celui-ci, c'est Pierre. Donc on va aussi lire, vite fait, dans le chapitre 26, des versets 69, à partir du 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant rapprochés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc là aussi, nous avons une sorte de trahison. Un épisode assez sombre pour Pierre, et pour Jésus aussi certainement, de voir cet ami proche, qui jurait d'être toujours là avec lui, même jusqu'à la mort, soudainement le nier comme ça. Qui est aussi... Il n'a pas trahi comme Judas, d'accord, mais il a renié, c'est-à-dire qu'il n'était pas loyal à Jésus ni à ses commandements. Donc, d'une manière, dans son cœur, il a trahi pour un moment. Et il a une autre raison que Judas. Donc Pierre, si on comprend bien, c'est plutôt par peur, pour se préserver, qu'il fait cela. Mais lui aussi, il a laissé cette peur le corrompre, prendre au-dessus de lui et le mener à un... mener quelque part où il ne devrait pas être normalement. Et souvent, on le lit comme ça, et on se dit, bon, d'accord, il a simplement nié, il a simplement dit non. Mais c'était à trois reprises. Et il faut, si on regarde bien, c'est pas pour minimiser ici ce que Pierre il a fait. Devant, il, d'abord, il est écrit qu'il a fait devant tous. Donc, c'est pas un petit murmure, c'était pas un petit, il a pas que parlé à la servante, mais c'était un acte public devant tous. Sachant très bien que Jésus avait enseigné que celui qui le renie devant les hommes, lui aussi il le renierait devant le Père. Et celui qui l'acclame ou l'affirme devant les hommes, Jésus aussi l'acclame et l'affirme devant le Père. Donc déjà, c'est pas simple, c'est pas quelque chose de... Il a que dit non, il a que... C'est quand même grave ce qu'il vient de faire. Il connaît Jésus, ça fait 3 ans, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, c'est son disciple, et quand même, il arrive facilement comme ça à le nier. Deuxièmement, il jure avec serment. Donc il promet, il est en train de promettre quelque chose, et il ment en même temps. Et troisièmement, il est écrit qu'il jure, il implique des malédictions sur lui-même. Et on sait très bien que Jésus disait, laissez votre oui être oui, et non, être non. Et ne jurez pas par n'importe que ce que ce soit, le ciel, la terre, une vie, n'importe. Donc il est en train de mentir, de renier Jésus, et il appelle des malédictions sur lui-même. Donc dans ce moment-là, Pierre, c'est plus... On peut le considérer un peu comme un traître. Tout de même, nous, on ne met pas Pierre et Judas sur le même niveau, n'est-ce pas? Il y a quand même une différence. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tous traîtres pour Jésus et pour Dieu à un moment quelconque de notre vie, n'est-ce pas? J'ai soif ce matin. Nous tous, nous avons trahi Dieu, nous l'avons désobéi d'une manière quelconque, nous l'avons renié d'une manière quelconque à un moment de notre vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la réalité. Des fois par motif plus grave, des fois par défense, par préservation, par peur, par... on ne sait pas. Mais tous l'ont fait. Que ce soit dans nos jeunes âges, où on s'écarte de Dieu, ou pendant un temps, ou même après, plus tard dans notre vie, il y a toujours une période où nous, comme humains, on est faible et on va tomber. C'est normal, dans le sport, c'est la même chose. Un joueur de baseball, il ne peut pas frapper des home runs à tous les coups. Des fois, il va frapper et la balle, elle passe. Et donc, ça nous laisse où par rapport à Dieu? Parce que nous, on est dans le même champ que Pierre ici. Nous avons la parole, nous croyons, nous affirmons, oui, Jésus, nous croyons en toi et nous serons avec toi jusqu'à la fin. Mais après, quand il y a des moments difficiles où ça coûte, des fois on tombe, des fois on renie, des fois on fait, ou même comme Judas, on fait comme nous on croit que ça devrait être. On essaie de forcer les choses, que ce soit une révolte dans le cas de Judas, ou autre chose dans nos vies quotidiennes. Et donc ça nous laisse où avec Dieu, où avec Jésus en fait? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset suivant lit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. c'est là où entre la repentance et la rédemption. Parce que oui, nous sommes faibles et nous tombons. Et pour être honnête, nous trahissons Jésus presque tous les jours, toutes les semaines. Mais c'est pour cela que Jésus est venu. C'est exactement pour ce... Jésus le savait très bien, comme nous sommes, comme Pierre il est, et comme Judas était. Et quand même il est venu, quand même il a lavé les pieds de Judas, et quand même il a appelé Pierre. Et c'est là où nous voyons la différence entre Pierre et Judas, qui est la repentance. C'est la repentance que Dieu veut de nous. Ce n'est pas la perfection. Il sait que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne pouvons pas le faire de cette manière-là. C'est pour ça que lui, il vient et tout ce qu'il demande nous, c'est une repentance. Et ici, il y a différence entre remords, comme on voit dans Judas, et la repentance qu'on va voir de Pierre. Parce que Dieu est un Dieu bon et fidèle. Et il aime pardonner. Et il attend à ce que nous demandions pardon. Parce qu'il a un cœur de père et de berger, n'est-ce pas? Qui est toujours là pour nous racheter si nous nous repentons. Parce que ça lui fait du mal à lui aussi de nous voir souffrir. Le salaire du péché est la mort. Bon, pour Judas ultime. Voilà, c'était la mort. Mais aussi quotidiennement. Pierre aussi, dans ce moment-là, il était un peu mort dans soi-même, n'est-ce pas? Parce que le péché, il va nous tuer l'âme peu à peu. Et c'est en se repentant que Dieu peut re-rentrer dans notre vie, re-rentrer dans notre cœur, où le Saint-Esprit peut travailler et il peut re-rendre la vie. Tout ce qui a été sali, tout ce qui a été cassé, lui, il peut faire bien de nouveau. Tout ce qu'il demande, nous, c'est la repentance. Et je trouve qu'on voit bien le cœur de Dieu envers Pierre et envers nous. Dans Luc 22, on va lire vite fait. Dans Luc 22, à partir de 31. Donc là, c'est pendant la scène, donc avant tous ces trahisons-là et tout cela, au début de la nuit. Hein. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et donc ici, on voit très bien le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui est là. Il sait très bien ce que Judas va faire. C'est pour ça qu'il lui dit, va et fais ce que tu as à faire. Il sait très bien ce que Pierre il va faire. Il connaît le cœur de Pierre. Mais c'est parce qu'il connaît le cœur de Pierre qu'il a dit, j'ai prié pour toi. Parce que le diable, il est venu pour cribler les disciples ici. Mais il vient pour cribler nous tous. Il a eu Judas, il a essayé avec les disciples, mais ils ont été protégés. Et la même chose nous arrive tous les jours, n'est-ce pas? Il y a le diable qui vient pour nous rober ce que Dieu il veut nous donner, pour nous rober cette intimité avec Dieu, pour nous faire le trahir. Et en sachant cela, qu'est-ce que Jésus il fait? Qu'est-ce que Dieu il fait? Et où est-ce qu'il est là maintenant? À la droite de Dieu, le Père, et intercède pour nous. Donc le cœur de Dieu, de berger et de Père, est celui qui, en toutes circonstances, est là pour nous supporter, oui, nous supporter, pour nous aider, et qui, même devant lui-même, nous avons des personnes différentes de Dieu, n'est-ce pas, devant lui-même, une part qui est Dieu le Père, qui est justice, et qui est saint, comme on vient de le chanter, n'est-ce pas, et l'autre part qui est le Fils, le bon berger, qui est là pour nous protéger, et pour dire oui, c'est vrai, mais il est des miens. Et tu me les as confiés, et je les rapporterai près du Père. Et donc c'est ça qui nous donne l'espérance. Parce que voilà, nous on peut très facilement tomber dans les pièges du diable, et dans ces mensonges, qu'une fois qu'on est tombé, comme Judas, que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi Judas est allé voir les sacrificateurs? Pourquoi il n'est pas allé voir Jésus? Pourquoi il n'a pas prié? Il était fermé dans sa tête, dans son monde, où le diable était rentré. Et là, il ne voulait plus d'issue. Mais Pierre, et Jésus le dit très bien, quand tu retourneras, tu seras un appui et une source de force pour tes frères.
Amen.
Donc même s'il est tombé, c'est pas, Dieu n'a pas fini là avec Pierre. Mais c'est qu'une étape. Et il sait très bien où il va l'amener. Et nous savons que l'histoire de Pierre et Jésus, elle se finit, c'est une très belle histoire, n'est-ce pas? Après être ressuscité, Jésus il apparaît quelquefois aux disciples. Et une de ces fois, les disciples étaient en train de, comme ils étaient pêcheurs, ils étaient en train de pêcher, donc d'attraper les poissons. Et ils voient un homme sur la rive. Et soudainement, c'est Jean qui dit, mais c'est Jésus. Et Pierre, c'est le premier à sauter dans l'eau. Il a même pas, il a enlevé ses vêtements, il est sauté dans l'eau pour aller rejoindre Jésus qui grillait du poisson sur le bord et les attendait. Ça, c'est fantastique. Et Jésus ne l'a pas reproché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Donc, garde mes brebis. Quand Jésus a été trahi, il y a écrit que le berger a été frappé et les brebis se sont dispersées. Donc, Pierre n'était pas le seul à s'être enfoui. Tout s'était enfoui. Et bon, Pierre, après, il a quand même renié. Mais c'est à lui que Jésus, après, va demander de rassembler le troupeau et de faire attention à son troupeau. Et de la même manière, Dieu il a un plan pour chacun de nous. Et nous avons nos dons, nous avons notre place. Nous avons nos choses que nous savons bien faire, et que nous devons faire, et les choses où non, on ne sait pas faire, et on laisse la place aux autres pour qu'ils prennent leur place. Mais voilà, on ne peut pas faire un home run à chaque fois. Donc il y a des fois où on va échouer, il y a des fois où on va être à côté. Mais dès qu'on retourne vers Jésus, il est toujours là pour nous pardonner et pour nous apporter à la prochaine étape. Donc c'est pas un échec forcément si on s'arrête pas là. C'est simplement un des pas dans le cheminement avec Jésus. Et donc c'est quoi en fait la différence entre Pierre et Judas? Les deux ont fait quelque chose. L'un du remords, l'autre a de la repentance. Mais au moins les deux, ils se sentent mal, n'est-ce pas? Et les deux font quelque chose. Judas n'a pas simplement dit, bon, mon plan n'a pas fonctionné, tant pis. Il essaie quand même d'aller sauver Jésus, d'une manière. Il essaie d'aller renégocier le trafic avec les sacrificateurs. Et après, il se pend, qui est quand même un acte qui veut dire quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherchait. Et la différence, en fait, entre les deux, c'est que, comme je le vois, c'est que même si Pierre, il est tombé, comme beaucoup d'autres, son cœur était toujours tourné vers Jésus. Son cœur était toujours là. Même si les actions ne suivaient pas tout le temps, même si la pensée, les émotions ne suivent pas tout le temps, mais le cœur était toujours tourné vers Dieu. Pendant que Judas, probablement, il n'était jamais vraiment avec le Seigneur. Et ça, c'est très dangereux. Parce que nous avons quelqu'un qui a passé 3 ans avec lui, qui a vu ses miracles, ses enseignements. Il est là avec les autres, Pierre, Jean. Mais Jésus, Dieu n'est pas dans son cœur n'est pas tourné vers Dieu. Et lui, il est un religieux, comme les pharisiens avec qui il trafique. Et ça, c'est dangereux aussi pour nous. Parce que si, pendant un moment, si on trahit Dieu dans son cœur, on peut être ici dans son troupeau, on peut être à l'église, on peut faire semblant, on peut faire des choses, on peut écouter des sermons, on peut prier. Mais si notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, s'il n'est pas ancré dans Dieu, ce n'est que religiosité. Et ça mène qu'à la perte, parce qu'on est en train de se déceptionner, de se décevoir soi-même. Mais Pierre, son cœur, il est réellement tourné vers Dieu. Et même s'il a un moment de chute, il arrive à continuer avec Dieu. Nous voyons un peu la même chose dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Avec les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Deux rois choisis par Dieu. Deux rois qui commencent bien leur royaume, leur mandat. Mais Saül, à un point, il va commencer à se tourner, à faire des choses qu'il n'est pas supposé faire. Il fait des choses que seulement les prêtres ou les prophètes pouvaient faire. Il se tourne contre Dieu, il va voir une magicienne. Il essaie de faire les choses à sa manière, il désobéit Dieu. Et quand le prophète vient le voir, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est moi qui ai raison, et il continue. Parce que là, il a trahi dans son cœur, il s'est tourné. Mais David, on lit qu'il est un homme d'après le cœur de Dieu. Et même s'il a échoué maintes fois, et de manière assez grave aussi, on parle d'adultère, de meurtre, et même vers la fin de son règne, quand il est déjà assez vieux, où on dirait, bon, maintenant il a pris la leçon, maintenant il a de la sagesse, comme Pierre un peu, dans son cœur, il va pécher contre Dieu, parce qu'il va faire le dénombrement de ses armées, et Dieu lui dit ça, t'étais pas supposé faire. Parce que là, t'as enlevé ta confiance en moi, et tu la mets dans tes soldats. Et c'est le peuple qui va souffrir la peste à cause de lui. Mais David, à chaque fois, c'est quelqu'un qui, vu qu'il a le cœur comme Dieu le veut, se retourne, se répand, et après se réjouit dans le pardon et la joie qu'il a dans le Seigneur. C'est là ce que Dieu il donne avec le pardon. Ce n'est pas simplement un acte juridique où ils effacent la fiche ou l'accusation dans le ciel, mais il restaure le cœur, restaure l'âme. Il vient inonder avec le Saint-Esprit notre âme, notre être, pour nous faire semblables à lui. Et il nous délie là où le diable nous a liés. Et ça, je trouve que c'est l'apôtre Paul qui le met très bien dans Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, nous tous, nous savons que ce n'est pas toujours facile. Et déjà, je félicite ceux qui veulent se faire baptiser. Et je vous encourage et je vous dis, faites attention, c'est normal. À un point quelconque de tomber, à un point quelconque de... Voilà, peut-être pas le chrétien parfait, mais continuez. Parce que dès que vous gardez votre cœur sur la bonne place, dans cette phrase ici de Paul, le bien que je veux faire, donc c'est de vouloir faire le bien déjà, qui montre où on est, n'est-ce pas? Si on ne veut même pas faire le bien, là c'est fini. Et c'est ça en fait, aimer Dieu et plaire à Dieu. C'est vouloir le bien, vouloir ce que Dieu il veut. Et donc lui obéir et à sa parole. Quand Jésus parle de la fin des temps, surtout dans Matthieu 24 et 25, il nous encourage toujours à rester près de lui et à garder la foi jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Continuez le bon combat, continuez toujours la course. Et donc dans le chapitre 25, il nous donne trois paraboles. Donc une est des boucs et des brebis. Et donc, Jésus est comme c'est le bon berger. Et il a son troupeau. Mais son troupeau, dans son troupeau, il y a des brebis et des boucs. Et vers la fin, il les séparera. Et les brebis l'emmènera avec lui. Mais les boucs iront à leur perdition. Et une brebis et un bouc, ce sont deux animaux assez similaires, mais distincts quand même. Comme Pierre et Judas. Parce que les deux animaux sont dans le troupeau du berger. Les deux mangent de la même herbe, n'est-ce pas ? Et ils sont guidés dans les mêmes prairies, vers les mêmes ruisseaux que le berger les emmène. Les deux peuvent se perdre, les deux peuvent s'éloigner un peu du troupeau, et s'éloigner un peu du berger et aller à l'aventure. Les deux peuvent tomber dans la boue, ou se heurter, ou être mangés par un loup. Mais la différence, c'est que quand le berger l'appelle, les brebis elles écoutent, elles entendent et elles viennent, et elles obéissent. Mais le bouc il ne fait qu'à sa tête. Et donc c'est là l'acte de repentance, c'est là ce qui différencie Pierre et Judas, David et Saül. C'est un cœur, oui c'est pas forcément les actions, même si les actions devaient, comme nous le savons, suivre notre foi, mais la repentance est aussi une action. Si notre cœur est toujours ancré dans Dieu, il reste toujours dans les mains du Seigneur. Si nous retournons toujours au bon berger et si nous gardons ses commandements, c'est là que nous serons bien, c'est là que Dieu, il est content. C'est là que nous sommes bénis, c'est là que nous sommes protégés aussi. Et ça prend un peu effort de nous-mêmes. Toujours on prie pour cela, comme Jésus a prié pour ses disciples, pour Pierre. On prie toujours parce qu'on a besoin de la protection divine de l'esprit, mais aussi notre part à faire. C'est très simplement en obéissant avec la force que nous avons. Et il y a des choses, des habitudes qu'il faut laisser. Rappelons-nous que le diable il est entré dans le cœur de Judas, mais lui il a toujours le libre arbitre. Donc c'est lui qui l'a laissé entrer à un moment. C'est lui qui a réfléchi. Et même lorsqu'ils se trouvent à la scène avec Jésus, avec les autres disciples, ils partagent le pain et le vin. Même là, je crois qu'il avait, même s'il avait déjà conspiré avec les sacrificateurs, même là, je crois qu'il aurait pu dire « Non, je vais m'arrêter. » Mais il continue, il était là-dessus. Il n'a pas bougé. Donc il y a des choses qu'il faut laisser de faire, il y a des choses qu'il faut dépenser, des manières de faire qu'il faut laisser. Parce que là, c'est où le diable, il va pas nous posséder, parce qu'il ne peut pas posséder un chrétien. Mais il voit où il va nous ligoter un peu. Si dans une partie de notre vie, on laisse un certain péché, une certaine manière de penser, on laisse le diable entrer. C'est comme si, dans ce domaine, il nous ligote un peu. Comme s'il vous met une corde autour du bras. Et après, la prochaine fois, c'est l'autre bras ou c'est la jambe. Et si ça continue, c'est le corps entier qui est ligoté. Et là, on ne fait plus rien. Mais ça, on peut arrêtez bien à l'avance. Et il faut toujours implorer la miséricorde et la bonté de Dieu. Il y a toujours cette image qui... Il y a une image qui m'est restée et que j'aime bien. Quand nous regardons des documentaires d'animaux et de nature et tout ça, ils montraient une fois comment ils capturaient des singes dans des régions tropicales et tout ça. En fait, le piège des singes est assez bête. Ils ont des grandes vases, mais où le cou il est assez serré. Et on ne peut rentrer la main que si elle est bien... Bon, si on n'a rien dans la main, si elle est bien serrée comme ça. Hein. Et donc, dans ces jarres, dans ces vases, ils mettent des cacahuètes, des noix, n'importe ce que les singes ils aiment bien manger. Et ils laissent le vase simplement là. Donc le singe, lui, il a faim, et il voit qu'il y a des noix et tout ça là-dedans, il glisse sa main, il prend ce qu'il veut manger, et quand il essaie de la ressortir, il n'arrive plus. Il est coincé. Et c'est un piège. Et moi, je regardais toujours ces deux commentaires, moi je me dis, mais il est bête le singe, il n'a qu'à lâcher. Et il aura toutes ces autres cacahuètes, toutes ces autres noix dans la jungle, moi je sais pas. Et le singe, il n'est pas ligoté, il n'est pas handicapé, il n'y a rien qui le retient. C'est que lui qui se retient lui-même parce qu'il ne veut pas lâcher ses petites noix. Et le lendemain, les gens ils viennent et ils le prennent. Tout simplement comme ça. Mais combien de fois nous on est comme ce macaque là? Combien de fois le diable il nous a dans son piège, il nous a loin de Dieu que parce que nous on voulait pas lâcher quelque chose de tout bête, de tout simple, qu'on aurait pu avoir ailleurs, que Dieu il peut même nous donner plus et mieux. Et nous on risque notre joie, de l'argent, nos relations, notre santé, même notre âme des fois, pour des cacahuètes. Et ça, c'est des bêtises. Donc on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a toujours cette tentation, qu'il y a toujours la chair qui est forte, mais c'est pour ça, restons près du bon berger. Dans la prière, et avec son aide, nous parviendrons jusqu'à la fin.
Amen.